Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Delphine, plus connue sous le pseudo Didi Paris, éponyme de son blog et de son surnom dans la vraie vie. La vraie vie, c'est justement ce dont on parle dans cet épisode, où on revient sur le parcours de Delphine et ce qui l'a poussée à partager sur Internet. En fait, dans cet épisode, on vous partage vraiment ce qu'est la vie de blogueuse, entre guillemets, et ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Comment vivre le fait de s'afficher sur les réseaux? Comment passer d'un travail de salarié à tout quitter pour travailler à son compte? La rémunération de ce métier, ainsi que les avantages et les inconvénients qu'il présente. Vous l'aurez compris, Delphine est aussi transparente que moi à ce sujet et n'a aucun mal à en parler. Enfin, on vous donne aussi tous nos conseils pratiques pour donner vie à vos projets, apprivoiser vos peurs et surtout, vous rappeler qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire et qu'il faut simplement accepter que l'on va apprendre au fur et à mesure et que la vie est une courbe d'apprentissage. Comme chaque semaine, j'ai lu les commentaires que vous m'avez laissés sur Apple Podcast et qui me font toujours autant sourire, et j'aimerais aujourd'hui remercier Anao qui a laissé l'avis suivant. Hello Louise, petit mot très rapide pour te dire que j'adore ton podcast. Je te trouve très inspirante et c'est un réel plaisir d'écouter chaque épisode, avec une envie toujours plus forte de prendre le pouvoir de sa vie. Bravo vraiment pour ce projet, il est génial. Merci à toi Anao d'avoir rédigé ce commentaire, même si c'est très rapide, ça me fait toujours très plaisir. Et je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. Comme vous le savez, c'est les vacances d'été et je me suis posé la question de savoir si jamais je faisais un petit break du podcast en août ou pas, après avoir publié chaque semaine en juillet. Mais en fait, j'aime trop ça et donc, même si les potentiels invités sont souvent en vacances, je crois que je vais lancer une mini-série d'épisodes où je vous parle en solo. Donc n'hésitez pas à me dire sur le compte Instagram du podcast @inpowerpodcast quel sujet vous souhaitez que j'aborde et je vous prépare ça. Et je vous invite maintenant à nous retrouver pour cette conversation inspirante avec Delphine. Souvent je me dis c'est intéressant, c'est con, enfin vu que dans tous les cas encore une fois moi c'est pas une interview particulièrement, je me dis c'est dommage, à mon avis ça peut intéresser des gens. Mais tu vois, Disney typique, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi ? Parce que franchement, ça se manifeste, tu vois, dans les faits, dans quasiment toutes les séries Disney. Il y a un moment où il y a ce besoin de partir en couille, disons, tu vois.
Ouais, mais tu sais, c'est aussi être en rupture par rapport à une image qui peut être un peu lisse et par rapport, je sais pas, la meuf Disney ou Disney Channel, c'est hyper conventionnel, tu réponds à plein de critères qui finalement, s'ils te ressemblent, à la limite, pourquoi pas, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur. Tant que t'es en adéquation avec ce truc-là, pourquoi pas. Mais si à un moment ou à un autre, tu trouves cette image, soit qu'elle te correspond plus, soit qu'elle t'a jamais correspondu et que t'es un peu enfermé dans ce carcan, c'est clair qu'effectivement, t'as le syndrome post-Disney qui peut faire partir direct, quoi.
Bah, en fait, ça, je peux comprendre totalement, parce que en plus, ils jouent des personnages, donc comme c'est des enfants qui regardent, les enfants n'arrivent pas à faire la distinction entre le personnage et la personne réelle.
Ouais, clairement.
Mais tu vois, par exemple, Emma Watson, elle s'en est très bien détachée, sans passer par la phase Wrecking Ball.
Ouais, mais attends, Harry Potter, c'était quand même déjà un peu cool, tu vois. C'était pas le truc niais, il y a des aspérités quand même dans Harry Potter.
Oui, mais attends, elle jouait quand même une sorcière.
Ouais,
tu vois, je pense que c'est très dur de s'en détacher, tu vois.
Oui, et première de la classe. C'était deux mauvais points pour elle, je suis d'accord. Ouais. Après, elle avait ce petit côté attachant qui, tu vois, même dans son rôle, qui faisait que ça lui donnait un peu d'aspérité, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais Ron, par exemple, a dit... tu vois, mais moi, je l'appelle Ron, mais bon, Rupert Grint a même dit dans plusieurs interviews que lui... n'arrivait pas à se détacher de son personnage, ou en tout cas que les gens n'arrivaient pas à se détacher de lui comme Ron. Après, peut-être qu'il a pas essayé, mais je pense que en fait, moi, ce que je comprends pas trop, c'est le côté extrême des personnages Disney. Mais encore une fois, je pense que juste je peux pas imaginer, parce que je sais pas ce qu'ils ont vécu et qui, à ma vie, doit être comme tu dis, à mon avis, c'est même
fort,
c'est un besoin physique, quoi.
Peut-être aussi, tu sais, leur âge. T'es hyper jeune et d'un coup tu te retrouves dans un espèce de star system que tu comprends pas forcément, ou d'un coup tu n'es plus dans ce star system parce que ton film ou ta série s'arrête et voilà. Tu vois, moi je pense à Macaulay Culkin dans un autre genre, le gars est complètement sorti et parti en sucette, ou les jumelles Olsen.
Ouais, carrément.
Tu vois,
elles sont devenues hyper dark.
C'est hyper dur pour elles, je pense, de toutes, elles ont été biberonnées. À faire, tu vois, un métier qui, déjà, quand t'es enfant, ça peut être difficile, tu vois, de faire la part des choses, de se construire. Donc déjà, se construire en one-shot avec un épisode ou l'animation d'une série en particulier, c'est compliqué. Elle, je sais pas jusqu'à quel âge ils ont fait ça, mais genre, je sais pas, 10 ans, non ?
Même 14-15,
ouais. Ouais, tu vois.
Et limite, elles sont séparées de ça, quand elles ont eu l'âge de réaliser un peu ce qu'elles faisaient, quoi.
Donc t'imagines, enfin, c'est hyper violent en fait. Je pense que déjà quand t'es pas en construction, enfin tu vois, toi je sais pas comment tu vis ton pseudo sur internet, ou moi qui bloque depuis 14 ans, en fait il y a un personnage Didi et il y a Delphine, et sans être totalement schizo, ça peut être deux personnes évidemment pas diamétralement opposées, parce que je ne suis pas schizophrène, mais tu vois, il y a forcément un rôle à un moment que tu endosses d'un côté ou d'un autre, et tu donnes surtout certaines facettes à voir et pas forcément toutes, parce que c'est pas forcément pertinent de montrer toutes tes facettes sur les réseaux sociaux, en tout cas, tu vois. Donc à plus forte raison, quand t'es en mode acteur et que t'incarnes un personnage dans un Disney ou un truc comme ça, je pense que et que t'es enfant.
Ouais, mais j'allais te demander deux trucs, mais j'ai commencé par la première, vu que t'as rebondi dessus. C'est, est-ce que toi, t'as toujours eu ce désir un peu, je dirais pas d'être connue, mais d'être
une star, bien sûr.
Une star. Non, d'être quelqu'un, plutôt, j'ai envie de dire, de se démarquer.
Ben, de se démarquer, oui, sans forcément être connue. Tu peux te démarquer dans un cercle donné
carrément.
De trois personnes, et tu te démarques au
milieu de ces trois carrément. Personnes. C'est plus, tu vois, moi, le star, je trouve que ça se prête pas forcément à ce qu'on fait, mais d'être quelqu'un, je dirais plus, parce que...
Ben, de s'afficher, en tout cas.
Ouais, après, moi,
ça me gênerait plutôt. C'est assez paradoxal, hein, mais j'ai commencé il y a très longtemps, puisque Mamie Didi, hein, je bloque depuis mars 2005.
Ça fait quand même ça fait un 14 petit ans, quoi.
Et à l'époque, t'étais pas du tout justement dans cette starification de l'influenceur. Si tu veux, mon analyse, attention, vous avez 4 heures, préparez-vous, c'est que globalement, avant, t'avais les stars, et nous, les Kidam, on s'identifiait ou pas à des stars, mais on avait ce phénomène un petit peu d'identification partielle ou complète, plutôt partielle en me concernant. Tu dis, ah, t'admires telle ou telle personne, t'as envie de lui ressembler, etc. Les stars, par essence, elles sont inaccessibles, forcément, puisque ce sont des people, des stars, et qu'il y en a beaucoup qui plus est à l'international. Donc en France, on en croise, mais c'est pas le même type de stars, et puis tu les croises pas forcément. Ni tous les jours quand tu habites Paris, ni tous les jours tout court quand tu n'habites pas Paris. Donc t'as forcément, tu vois, une espèce de distanciation qui est de fait, puisque tu ne vois pas ces gens-là. Alors que l'influenceur, par essence, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Et donc finalement, on se met peut-être sur un piédestal dans le sens où on se donne une visibilité puisqu'on prend la parole. Et c'est accentué par le fait que comme on est accessible, évidemment, puisqu'on est nobody, forcément, les gens, il y a une espèce de glissement de terrain et toute proportion gardée, on devient des espèces de mini-stars parce que, j'insiste vraiment sur toute proportion gardée, mais tu vois des filles comme Noëlita ou Adenora ou voilà, des grands noms de l'influence, je comprends qu'il puisse y avoir un espèce de glissement de terrain entre la star et l'influenceuse star. Parce qu'elle a beaucoup de followers et que du coup, bah forcément, elle est visible, plus visible que d'autres. Et comme elle est encore une fois un kidam, bah, évidemment, il y a plus de gens qui vont avoir accès à elle que si c'était Monica Bellucci.
Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de bloguer ?
Moi, j'étais étudiante à Sciences Po, comme toi, je crois.
Ouais.
Voilà. Et en fait, j'étais pas du tout en journalisme, mais je voulais vraiment. Je me suis dit, mais je veux vraiment faire des études de journalisme et pas de gestion de l'information dans l'entreprise, comme ce que j'avais choisi. Et la com que j'avais fait avant au CELSA. Et du coup, j'avais écrit pas mal pour un organe de presse étudiant qui s'appelait Paris Étudiant, qui a été racheté depuis par Le Parisien. Et sauf que voilà, c'était très sympa, mais je chroniquais genre mode, surtout pas mode, le vieux lapsus, culture, expo, pardon, livre, voilà. Et je me disais, je me sentais un peu limitée, tu vois, dans mes sujets. Je t'avoue que j'ai même pas essayé de proposer une nouvelle rubrique, c'est vrai que c'est bête, j'aurais pu. Mais je me suis dit, en fait, je me mariais pendant cette même période, et je me suis mariée très jeune. Je sais plus quel âge j'avais en 2005, mais je crois 26 ou un truc comme ça.
D'accord.
Et en gros, je faisais plein de recherches, comme toutes les mariées, sur, par exemple, le lieu, les robes de mariée, les listes, les fameuses listes de mariage. Et en fait, c'est beaucoup de temps que tu passes sur ces sujets-là.
Carrément.
Et en réalité, je me suis dit, mais attends, j'ai trop envie de partager, tu vois, le fruit de ces recherches-là, parce que globalement, sinon, c'est clairement du temps perdu, parce que ça va me servir à moi, mais moi, j'aurais bien aimé trouver, tu vois, un petit tableur Excel bien ficelé avec, bon, alors, cette liste-là, c'est bon pour telle et telle raison, etc. Et donc, en vrai, je me suis dit, bah tiens, pour les sujets que j'ai envie d'aborder et que je peux pas aborder sur le site étudiant, que ce soit des sujets qui ont trait au mariage ou des sujets plus lifestyle, je vais créer mon blog. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie au début. Et pour la blague, tu vois, on parlait du phénomène de star et tout. Donc, j'ai raconté vraiment, mais de manière très ténue, le mariage. C'est-à-dire que j'ai surtout donné des, tu vois, des infos sur l'organisation.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
J'ai absolument pas dit où j'avais choisi ma robe. J'ai pas montré de photos d'essayage. Enfin, voilà. En plus, t'avais une espèce de pudeur que t'avais pas du tout... Enfin, t'avais vraiment beaucoup de pudeur à l'époque parce
ouais.
que...
Il n'y avait pas d'exemple de
ben
Google
non,
qui
et
tout,
puis, ouais, et puis, moi, je suis quelqu'un de pudique de base par rapport à ma vie privée, j'entends. Mm. Physiquement, pas du tout, mais...
bon, équilibre.
Voilà, mais du coup, j'ai tendance à garder, tu vois, mon ouais. intimité pour mon cercle intime. Et donc, voilà, ça ne me serait vraiment pas du tout venu à l'idée d'exposer un peu plus, même si je ne juge pas, je pense que chacun fait bien comme il veut. Mm. En tout cas, moi, ça ne me correspondait pas. Mm. Et j'avais juste posté une photo de mariage, une seule de nous deux. Un peu, lui, il était un peu caché parce qu'en plus, il tient à sa virginité des internets depuis toujours. Donc, il n'était pas question que je l'expose.
Ouais.
Donc, c'était plutôt moi qu'on voyait, tu vois, en premier plan. Et lui, il était un peu caché et tout.
Ouais.
Et en fait, c'est débile. Mais tu sais, j'ai eu plein de commentaires... Genre, félicitations, vous êtes trop beau, etc. Adorable, vraiment,
ouais.
Fondamentalement adorable. Mais je me suis rendu compte que c'était des gens que je connaissais pas.
Ouais.
Et ça m'a fait flipper. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie. C'est hyper intime comme photo, même si lui, on le voit pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment, encore une fois, un événement que je souhaitais cantonner à mon cercle à moi.
Ouais.
Du coup, j'ai supprimé la photo et je me suis dit, ok, ça, c'était mon premier warning de... tu vois, genre, attention, mets pas trop de trucs intimes si tu te sens pas à l'aise avec ça.
Ouais, voilà. Ouais, tu t'es posé la question, quoi.
Ouais, grave. Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qui a fait que t'as continué à bloguer et aujourd'hui, j'imagine que tu fais ce genre de photos qui, à l'époque,
ouais.
te paraissaient une intrusion,
bah,
quoi.
Je me mets plus en scène, clairement, parce
ouais.
que j'ai compris que ça faisait partie du jeu et que, en fait, quand t'es influenceur, je déteste ce terme.
Moi, je dis inspirateur.
Bah, c'est
ou
une bonne, ouais, inspirateur ou inspiratrice. En tout cas, quand tu prends la parole sur Internet, t'as un jeu, en fait, d'identification. Les lecteurs ont besoin de s'identifier à une personne. Et moi, je le vois en tant que lectrice.
Mmh.
Clairement, quand je suis un compte un Instagram ou que je lis un blog, j'ai envie de savoir qui se cache derrière ce blog. C'est con, c'est peut-être un petit peu, tu vois, du voyeurisme ou j'en sais rien, il y a peut-être de ça. Mais j'ai envie de savoir quelle est cette personne à laquelle je m'identifie pas forcément à 100%, mais voilà, je vais me dire, bah tiens, ses propos sont intéressants, me font réagir, m'apportent quelque chose. Donc je joue plus ce jeu-là parce que je l'ai compris au fil des années. Pour la blague, quand même, j'ai posé avec un masque pendant 5 ans.
D'accord. Bah, je crois que j'étais pas assez grande
ouais,
pour,
non, c'est clair.
pour avoir un star.
Tu
ou...
n'étais pas née. Mais en gros, ouais, j'étais, je voulais garder encore une fois mon intimité et puis j'étais pas forcément très bien dans mes baskets, tu vois, je me cherchais beaucoup physiquement, intellectuellement, etc. Et du coup, j'aimais pas ce côté, j'assumais pas ce côté mise en avant. Mais à la fois, j'avais quand même envie de montrer certaines choses de ma vie, notamment mes formidables looks. Et donc, à un moment, je me suis dit, comment je peux résoudre cette équation en gardant mon intimité et puis en m'exprimant quand même sur le sujet. Donc, j'avais demandé à une copine qui fait toujours du street art en tricot, qui s'appelle Emmanuel Esther, de tricoter un masque de mouton. Le truc, tiens, on va prendre un café en 5 minutes, elle te tricote le truc, bam, bim, boum, t'es là, ok, d'accord,
des doigts de
fée. Et elle me tricote un masque de mouton pour remplacer le masque que j'avais acheté de mouton toujours, mais en, tu sais qu'il y avait en plastique, quoi.
Ouais.
Elle est fondue sur une lunette arrière pendant des vacances dans une bagnole. Enfin, bon,
sale histoire.
Sale histoire, ouais. Gaston le mouton de la mode, voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de me protéger mon intimité.
Ouais.
Et puis, tu vois, de faire en sorte que les gens puissent s'identifier quoi qu'il arrive à moi, parce qu'il y avait un masque, et donc je mettais l'emphase plutôt que sur moi, sur voilà, un tout, une silhouette, etc., plus que sur un personnage en particulier, enfin, en tout cas une personnalité.
Ouais.
Et donc, je l'ai fait pendant un petit moment, et puis j'ai 2-3 amis super bien intentionnés qui m'ont dit, écoute, c'est une démarche qui intrigue, et donc après tu peux, voilà, why not, ça peut intriguer pour des bonnes raisons,
ouais.
Mais si tu veux te lancer un peu plus loin dans le blogging, fais gaffe, parce que ça peut, voilà, ça peut te bloquer, et c'est vrai que, voilà, encore une fois, j'ai pris conscience du fait que, il y en a plein qui me disaient, tu vois, c'est flippant, ou des gens qui comprenaient pas la démarche et qui me disaient « Mais tu es tellement jolie, pourquoi te cacher derrière un masque ?» Bon, ça partait d'une bonne intention, tu vois, on va pas se plaindre, mais voilà. Donc en fait, le masque, j'ai laissé tomber au bout de 5 ans quand j'ai eu des velléités d'être
ouais.
un peu plus pro sur mon média, quoi.
Quand même, moi, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imaginerais pas du tout voir ça,
ouais.
mais parce que le monde du blogging a évolué et je peux totalement imaginer qu'au début... Il y avait même les blogueuses avaient moins conscience que c'était très important en fait pour un lecteur ou une lectrice
ouais.
de connaître la personne derrière Et je trouve que c'est une très bonne idée dans l'absolu. Et c'est un peu pervers qu'on ait besoin de lever ce voile à tout prix, tu vois, de l'intimité.
Il y a un côté pervers et à la fois... Alors, tu vois, moi, j'avais le masque, mais je sais pas si ça dit quelque chose, mais en tout cas, les premiers blogs mode,
ouais.
Les filles se prenaient en silhouette en se coupant la tête.
D'accord.
Pour, pareil, préserver leur intimité, ouais. Etc. Et en fait, que ce soit... Alors, la tête coupée, c'est peut-être un peu plus radical, et c'est vrai que ça coupe un peu la silhouette, et il y a un côté encore peut-être plus marqué dans le, tu vois, dans l'ADA. Après, oui, je pense qu'il y a une partie un peu malsaine de « j'ai envie de voir quelle est cette personne derrière
».
Et à la fois, je pense qu'on a tous besoin... C'est plutôt pour des bonnes raisons, je pense, qu'on a envie de voir les personnes, tu vois.
C'est vrai. On a plus confiance dans quelqu'un qu'on connaît,
ouais,
dans l'absolu. Hein.
Exactement. Parce que, une meuf avec une tête coupée ou un masque de mouton un peu flippant, tu te dis, elle n'est pas très saine d'esprit. Ou tu vois, il y a toujours un truc un peu chelou. Alors que finalement, quand tu n'as rien à cacher, ton visage, tu peux le montrer. Et finalement, c'est une partie de toi que tu montres.
Ouais.
C'est pas, ça ne te résume pas, en fait. Tu ne te résumes pas à ton visage ou en tout cas au pan de ton intimité que tu as envie de dévoiler. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est d'arriver un peu à faire la part des choses et de se dire que, voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on s'expose. Même, tu vois, j'ai quelques amis qui font des photos plus dénudées ou, tu vois, qui osent plus se mettre en scène. Et moi, je suis moins à l'aise avec ça parce que, tu sais, Instagram, au début, t'avais personne. T'avais trois pelés qui se battaient en duel et c'était très cool. Maintenant, j'ai genre ma mère, mon père, mes petites cousines, tu vois. Et il y a un côté hyper gênant. T'es là, en fait, ouais, non, c'est pas que je suis pas à l'aise avec mon discours. Juste, les meufs, bon, tu vois, enfin,
ouais.
T'as pas forcément envie de montrer toi à tout le monde, en fait.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Bon, en tout cas,
c'est difficile avec une plateforme comme Instagram.
Ah bah, c'est clair. Parce que même, tu le vois bien, toi aussi, je pense que dans les contenus que tu postes, les gens sont sensibles aussi à ce que tu vas leur montrer, et sensibles à ce que tu vas leur montrer, c'est aussi la part de ton intime que tu vas leur montrer, et c'est important pour plein de raisons, en fait.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, j'essaye le plus possible de m'écouter moi.
Ouais.
Parce que si je réfléchis trop à est-ce que ça va choquer telle personne, est-ce que ça va plaire à telle personne, ouais, tu n'avances plus. Et c'est de plus en plus difficile parce que quand t'as de plus en plus de personnes, t'as de plus en plus de personnes qui se font entendre.
Ouais.
Mais je trouve que c'est vraiment important parce qu'à la fin de la journée, mieux vaut que tu sois à l'aise avec toi-même, ce que tu partages,
plutôt
que d'être frustré. Et que sinon, je trouve vraiment, si on fait trop attention aux autres, on vit plus même pour soi. Que ce soit pour Instagram ou ailleurs,
tu fais plus rien parce que il y aura toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire.
Ouais, carrément.
Et de toute façon, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour défendre ses idées, ses valeurs, ses convictions que d'être totalement en phase avec elle et d'avancer comme ça, ouais.
Et toi, quand est-ce que du coup tu as commencé à considérer le blogging comme une carrière potentielle? Et je crois que du coup tu as démissionné du poste que tu avais. Quand est-ce que ça s'est fait et qu'est-ce qui t'a fait
Ça s'est fait quand j'ai pu devenir milliardaire. J'aimerais bien. En fait, j'ai commencé mon blog en 2005. En 2007, à partir de 2007, j'ai bossé pendant 7 ans et demi à un poste de rédac chef du site de Cosmopolitan.
Ouais.
Et donc je menais les deux en parallèle. Et clairement, le blog était un peu en sourdine parce que ma priorité dans la vie, c'était clairement mon boulot. C'était un boulot génial. J'avais été appelée pour co-fonder le site qui n'existait pas à l'époque, monter mon équipe et prendre la tête de l'édito. Je sais pas si t'imagines, je devais avoir 27 ans, un truc comme ça, c'est ouf.
C'est trop cool.
C'est l'opportunité du siècle.
Quand j'étais petite, c'est grave ce que je me disais. Je me disais, je veux créer mon magazine, je veux tout écrire.
Mais ouais, je pense que quand tu t'intéresses à l'écriture, il y a forcément un moment où, tu vois, moi j'écrivais des bouquins pathétiques, j'ai retrouvé les trucs, c'était un peu naze, mais enfin complètement naze. Mais voilà, je pense que quand t'as un rapport avec l'écriture important dans ta vie, quel que soit ton âge, il y a toujours un moment où le livre ou le magazine vient, tu vois, un peu sur la scène.
Ouais, carrément.
Donc, c'était un peu dingue. J'ai fait ça pendant 7 ans et demi. Le blog était clairement en sourdine. Et puis, petit à petit, c'était compliqué parce que j'avais des choix à faire. C'est-à-dire que le blog continue à prendre de l'ampleur malgré tout. Parce que quand tu blogues depuis longtemps, quand tu t'y astreins de manière quand même régulière, quand t'as un travail un peu carré sur le sujet, forcément, tu continues à avoir des lecteurs. Moi, j'ai la chance d'être super bien référencée en plus, parce que je suis un vieux blog, donc tu vois, il y a un effet boule de neige que tu contrôles pas forcément. Et donc, à un moment, tu te retrouves un peu dans la position de te dire, est-ce que je peux pas continuer sur ce rythme-là, parce que c'est trop.
Ouais.
Donc, est-ce que je crache mon blog? Où est-ce que je crache mon boulot? Donc j'ai fait déjà un petit 4-5e. J'ai arrêté de bosser le mercredi pour avoir une journée entière à consacrer à mon blog.
Ouais.
Donc ça m'a un peu apporté, tu vois, de la liberté, un peu de l'attitude pour continuer à le faire. Et puis en fait, ça suffisait pas, parce que je me rendais bien compte que c'était beaucoup trop compliqué de mener les deux de front, si tu veux. Donc après, bah, j'ai quand même mis 3 ans hein, à partir de mon poste, donc c'était pas une décision hyper facile. Vivre de son blog, ça a l'air hyper simple, en tout cas, ça a l'air très répandu, et tu vois, vu de l'extérieur, tu te dis « Ah bah ouais, il y a des marques qui viennent, qui te payent, du coup c'est facile, c'est cool ». Alors en fait, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Moi, je me cantonne pas à cette activité de blog. Et d'autant plus que je tiens énormément à mon indépendance éditoriale, que je veux surtout pas être aliénée à quelques marques que ce soit, tu vois. Donc je fais des choix qui sont pas toujours bons, hein, tu peux te tromper, mais en tout cas, je fais hyper attention à ça. Et donc, bah, cette liberté, forcément, à un moment, si tu veux être totalement libre, tu peux pas indexer l'entièreté de tes revenus à un seul type de boulot, quoi. Donc voilà, donc en gros, je fais du blog, du conseil en stratégie digitale et de l'événementiel. Et ça me permet de garder cette indépendance. Et j'ai quitté mon job chez Cosmopolitan parce que, au bout de 7 ans, t'avances quand même pas mal. Et puis, il y a plein de choses qui étaient passionnantes et qui l'étaient forcément moins sur la durée parce que c'est le lot de tous les jobs, en fait. Quand tu connais un peu mieux le périmètre, t'as moins de surprises, t'as moins de découvertes. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien défricher, tu vois, aller un peu en terra incognita sur certains sujets, etc. Ce que me permettait encore de faire le blog parce que c'est un renouvellement perpétuel. Alors que le média, en fait, au bout d'un moment, il roule. Tu sais comment il fonctionne, tu sais quels sont les sujets qui marchent, quels sont ceux qui fonctionnent pas. Voilà, enfin, t'as moins de surprises, en fait. Et puis, le journalisme digital, c'est quand même un sujet, c'est compliqué. Donc, surtout pour un média féminin, donc tu te retrouves sur un secteur ultra concurrentiel où t'es obligé de répondre à des prérequis qui, moi, me finissaient par me faire poser beaucoup de questions. Tu vois, t'écris beaucoup pour Google, pour les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément un mal en soi. Hein. Les gens ont tendance à tout diaboliser et tout, mais... Voilà, c'était un peu moins ce que je voulais faire. Je voulais avoir plus de temps pour faire des sujets de fond, des enquêtes de fond. Et ce temps-là, on ne l'avait pas forcément parce que ce n'était pas du tout la temporalité du média. Donc, j'ai quand même mis 3 ans à partir parce que c'était un peu mon bébé, tu vois. J'avais contribué à le créer. J'adorais mon équipe éditoriale. C'était vraiment des filles chouettes. C'était cool, en fait. J'aurais pu passer ma vie, en fait, au groupe Marie-Claire. Parce que les gens étaient sympas, le job était intéressant, t'es en CDI, t'as un joli titre qui claque, t'as une belle carte de visite. Juste qu'à un moment, ça ne me correspondait plus, il y avait des choix à faire, et j'ai fait le choix de sauter dans le grand bain sans les bouées. C'était bien flippant, mais je ne le regrette pas.
T'as bien nagé.
j'ai fait un peu de flottaison, c'était pas toujours gagné. Parfois, j'ai bu la tasse, mais et je la bois toujours, hein, régulièrement, parce que t'as aucune certitude quand t'es freelance et... Et ça, c'est le côté pas forcément toujours évident, mais à la fois, c'est hyper excitant. Et voilà, quand t'aimes découvrir des nouveaux terrains de jeu, là, c'est bon, t'as de quoi faire.
Carrément. Et est-ce que t'as eu tout de suite conscience de ce côté « j'ai pas envie de ne vivre que des partenariats dans l'absolu ?» Parce que je sais que, en fait, c'est après, t'as fait une campagne de crowdfunding et t'as ouvert ton lieu. Mais je sais pas, moi, dans les délais, tu vois, combien de temps après ça a été et qu'est-ce que t'as commencé à faire dès le départ? Est-ce que t'as commencé à faire le blogging à plein temps? Après, t'as ajouté du conseil ou est-ce que t'as commencé ça en même temps? Enfin, tu vois, comment ça s'est fait en fait?
En vrai, je faisais déjà un peu tout parce que tu sais, il y a de plus en plus de marques qui veulent communiquer auprès des inspirateurs, comme tu dis. C'est un super mot, j'adore. Je vais te le piquer, je crois.
Écoute, avec plaisir.
et en gros, forcément, tu n'avais en tout cas pas beaucoup d'experts à l'époque. T'as aussi beaucoup d'experts autoproclamés. Tu sais, c'est comme les magnétiseurs, par exemple. T'as très peu de bons magnétiseurs et t'as beaucoup de charlatans. L'expert digital, c'était beaucoup ça à une époque, tu vois. Tout le monde s'autoproclamait. N'importe quel blogueur. C'est vrai, quoi. Par le réseau que j'avais plein de gens des marques, en fait, qui me disaient, mais tiens, moi, j'aimerais bien, ça pouvait être, tu vois, très ponctuel, par exemple, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais envoyer une communication auprès d'une cible d'influenceur, comment je fais? Ça pouvait être, j'ai envie d'organiser un événement, est-ce que tu m'aiderais à organiser cet événement? Ou ça pouvait être un peu plus large à base de est-ce que tu nous aiderais à mettre en place la stratégie digitale pour les 6 prochains mois ou pour l'année à venir. Donc tu vois, c'était vraiment des missions très diverses et hyper intéressantes. Et ça, je le faisais déjà, alors dans une moindre mesure, parce que quand tu veux un temps plein, un job à côté, c'est compliqué de libérer du temps. Donc, quand j'ai été en 4-5e, bah, j'ai accepté un peu plus de missions comme ça aussi. Et puis, quand je me suis lancée à 100%, très clairement, il y avait beaucoup moins de freins pour que j'y aille à 100%, donc c'était très cool.
Ouais.
Après, cette conscience de ne pas vouloir être aliénée aux marques, je l'ai eue dès le départ parce que je ne l'ai jamais fait pour les marques, en fait, tu vois. Le blog, je l'ai vraiment fait en dilettante. À une époque, on ne se posait pas la question de savoir quel était le meilleur pseudo pour bien ressortir sur Internet. Et je le dis sans critiquer. Mmh. Je pense que c'est des stratégies juste qui sont complètement différentes. Mmh. Et je trouve que c'est super aujourd'hui, quand tu te lances, évidemment, de réfléchir à quel pseudo tu vas choisir, quel créneau tu vas occuper. C'est indispensable aujourd'hui. Moi, à l'époque, si tu veux, j'ai ouvert un canal blog, parce que c'était une plateforme clé en main et que je n'ai jamais su coder, que je connaissais absolument aucun informaticien ou ingénieur en informatique qui aurait été susceptible de me donner un coup de main. Que du coup, j'ai trouvé ça hyper simple d'avoir juste à rentrer un nom et que je me suis dit, oh merde, un nom, tu vois, t'es sur ton bureau le soir, voilà. Et Didi, c'est le prénom, le surnom que me donne toute ma famille, justement mon cercle intime, et c'est là où tu vois le truc un peu, voilà, tu vois, je veux protéger mon intimité et à la fois, bam, je me
balance mon surnom.
Ouais, c'est pas comme exactement ça. Heureusement qu'ils me disent pas petit canaillou, tu vois, dans l'intimité, sinon on était bon pour ça.
Ouais.
Mais voilà, et du coup. Bah, les marques, quand elles ont commencé à s'intéresser au phénomène, tu vois, ça doit dater de 2007 à peu près.
Ouais.
Bah, tout de suite, en fait, c'était assez simple. J'avais le loisir de refuser. Je dépendais pas des marques, en fait, pour vivre, parce que j'avais un revenu par ailleurs et que, voilà, j'acceptais uniquement ce qui m'éclatait, ce qui me faisait rêver, ce qui m'intéressait, ce que je jugeais éventuellement pertinent pour des lecteurs, etc., etc. Donc, en fait, ce biais-là, je l'ai toujours eu. Et pour moi, il n'a pas changé, même si je dépends un peu plus de mon blog aujourd'hui pour vivre, clairement. Mmh. Mais je ne dépends pas que de ça et je m'assure toujours d'avoir d'autres sources de revenus, justement. Tu vois, ça m'est jamais... J'ai fait des erreurs, je continue à en faire parce qu'on n'est pas parfait, qu'on travaille dans l'urgence beaucoup, qu'on est des entrepreneurs individuels. Donc même si j'ai une super agent commercial qui bosse avec moi depuis septembre 2017 et qui m'aide énormément à faire aussi la part des choses... Forcément, à un moment, tu vas pas toujours prendre les bonnes décisions. C'est normal, on est humain, on fait ce qu'on peut. Et puis, parfois, la mission évolue en cours de route et tu dis « Attendez les gars, c'est pas du tout ce sur quoi on était parti, quoi. » Donc voilà. Mais néanmoins, tu vois, j'ai pas la sensation je peux me tromper, mais j'ai toujours ce biais de est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce qu'il y a un propos ? Est-ce que c'est, par exemple, une marque que je connais, que j'ai l'habitude de consommer, etc. ? Est-ce que si je la connais pas, je vais regarder un petit peu, je creuse un petit peu, je fouille ? Enfin, tu vois, il y a pas mal de biais. Je m'étais amusée un jour à faire un tableau. Je voulais bosser avant Émilie qui travaillait avec moi, dont je parlais.
Ouais.
J'ai vraiment essayé de travailler avec d'autres personnes, de m'entourer au moins de cette partie commerciale qui est pas du tout la mienne. Je sais pas faire, j'aime pas. Voilà, bon.
C'est
un job, comme beaucoup d'autres.
Ouais.
Et donc, j'avais bossé avec une fille et j'avais essayé, tu sais, elle m'avait dit, mais comment tu choisis une mission ? Et j'avais commencé à dire, bah écoute, c'est hyper simple, donc tu vois, critère numéro 1, machin. Puis après, j'ai détaillé et je me rendais compte qu'en fait, j'avais plein de critères, donc j'ai commencé à faire un tableur Excel avec une pondération, non mais, enfin, ridicule.
Ouais.
Mais c'est pas au doigt mouillé, très clairement.
C'est au feeling. Enfin,
c'est beaucoup de feeling, mais t'as aussi plein de critères hyper tangibles sur lesquels tu vas réfléchir,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais, non, donc, mais sûr, sûr.
Faut juste les poser. C'est clair que quand tu travailles, quand tu le fais toi tout seul avec toi-même, quelque part, c'est plus simple parce que y a beaucoup plus, tu laisses beaucoup plus part à ton intuition et effectivement à ton feeling. Quand tu dois responsabiliser quelqu'un ou partager la décision avec quelqu'un, il faut que tu arrives à lui exprimer en fait pourquoi tu n'acceptes pas telle mission ou pourquoi, à contrario, celle-ci, tu vas l'accepter. Et voilà, en même temps, c'est hyper intéressant, ça te fait avancer et ça te fait un peu cadrer mieux tes
ouais,
choix.
Ouais, c'est sûr, même toi, ça te permet de voir là où tu veux aller.
Clairement.
Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec Emily, avec d'autres gens, ou est-ce que c'est juste toi et Emily ?
On a été jusqu'à 4 au sein de Didi, parce qu'il y avait l'appartement dont tu as parlé tout à l'heure, avec beaucoup d'événementiels. On a organisé 67 événements en un an et demi, enfin en 18 mois.
Ah oui ?
Ouais.
Et plus d'un par semaine, quoi.
Ouais. C'est... Alors, tu sais, la blague, c'est que tu peux avoir rien pendant 2 semaines. Et puis après, tu vas avoir un truc le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi soir, le jeudi matin. Et là, tu arrives le samedi en mode PS.
Mais t'as pas de week-end.
Mais t'as pas de week-end, parce que de toute façon, tu dois faire le reste. Mais oui, donc à un moment, au plus fort, entre guillemets, de l'activité, j'avais un contrat pro, une stagiaire, Émilie, et puis des freelances que je sollicitais ponctuellement, notamment sur toute la partie vision stratégique de l'entreprise. J'ai des coachs d'entreprise pour m'aider à développer mon activité. Voilà, moi, j'ai une formation en communication, en journalisme à la base, si tu veux, donc je m'improvise pas. Comptable, experte, tu vois, dans des domaines qui peuvent te faire défaut après quand tu veux développer une entreprise.
Carrément.
Et donc aujourd'hui, j'ai encore Charlotte qui travaille avec moi, qui est en contrat pro, Émilie, donc, qui est la responsable commerciale, et voilà, on est trois.
Ok, et donc t'as plus l'appartement, si j'ai bien compris ?
Non.
Ok.
En fait, l'idée, c'était que cet appartement, on voulait vraiment en faire un lieu comme à la maison pour que les gens s'y sentent bien et pour recréer, en fait, un contexte avec plus de sens, tu vois, de remettre du sens, en fait, dans l'événementiel. Faut savoir, ceux qui nous écoutent sont pas forcément familiers avec ça, toi certainement plus. On est souvent invités par des marques. Sur une base très régulière, moi je dirais par semaine, je dois avoir une vingtaine d'invitations. Et en fait, à un moment, ça fait plus sens. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup, tu sais même plus comment choisir, tu sais même plus sur quels critères autres que je connais la marque, le produit ou l'actualité qu'elle lance a l'air intéressant, donc j'y vais, mais c'est plus un critère suffisant parce qu'en fait, ça peut être le cas sur les 20 en même temps. Donc t'es là, ok, donc comment je vais faire ? Et puis, t'as des marques qui, tu peux te planter, t'en as plein, t'arrives et tu sais, genre, tu sais même pas ce que tu fais là. Les gens qui sont invités, tu te dis, mais c'est pas que... Enfin, tu te dis juste, on n'est pas du tout la même manière de travailler, on n'est pas sur les mêmes créneaux, donc c'est... ça peut être complémentaire, mais ça ne l'est pas toujours, bref. Et je me disais, il faut qu'on recrée du sens, et qu'on arrive à refaire des événements où tu ne te poses pas la question de pourquoi tu es là, où tu as un vrai propos, où tu peux avoir des rencontres, tu peux avoir des experts qui viennent expliquer, par exemple, un produit de beauté, parler de la composition des produits sans langue de bois, sans tabou, voilà. Et en fait... très vite, le lieu, je me suis dit que c'était une bonne idée parce que un influenceur ou un inspirateur qui a son propre lieu, c'est pas commun, en fait. C'est même, t'en as deux ou trois dans d'autres domaines plutôt mode.
Ouais.
Je pense notamment à Lisa Gachet avec son
Avec
shop.
Melimonade,
exactement. Ouais. Voilà, juste l'inspirateur qui se dit « Tiens, j'ai envie de faire de l'événementiel un peu plus creusé dans une unité de lieu, un lieu qui fait que les gens s'y sentent bien et à l'aise, etc. » T'en avais pas. Donc voilà, et on a fermé, enfin je dis on, parce qu'on bosse beaucoup avec Émilie dessus.
Ouais.
On a choisi de fermer ce lieu parce qu'on avait signé un bail précaire et je suis pas rentrée énormément dans les détails parce que j'avais pas intérêt à le faire à l'époque, mais on a eu des galères, mais de ouf dans l'immeuble.
Ouais.
Le propriétaire en fait qui détenait tout l'immeuble était un peu un type pas très réglo en fait, qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues.
Ouais.
Par exemple, un échafaudage juste après que j'ai signé le bail, sans me prévenir bien sûr. Par exemple, l'ascenseur en panne 3 mois d'affilée alors que je suis au 6e étage. Ce genre de choses, tu vois. La cage d'escalier complètement délabrée alors que j'ai une partie des clients qui passaient par la cage d'escalier, évidemment. Donc voilà, le type n'était pas dans la transparence, il n'était pas clean. Alors que moi, je suis beaucoup dans le dialogue. Donc dès le départ, je lui avais donné la nature de l'activité. Je lui avais expliqué ce que je faisais, que ça impliquait qu'on recevait du monde, etc., etc. Donc j'étais bien contente d'avoir signé un bail précaire. Et là, on travaille sur la V2... de l'appartement.
D'accord.
Voilà.
Donc ça t'a quand même plu
ouais.
Parce que tu t'es lancé dans un secteur que tu connaissais pas du tout à la base.
Clairement.
Et parfois ça peut faire peur.
Bah, tu peux te planter.
Comment ?
Déjà tu peux te planter, ça peut
faire
peur.
Carrément, carrément. Enfin bon, après planter, on peut toujours, tu vois, rebondir. Et parfois c'est bien, je trouve, de faire des expériences qui nous font réaliser si on aime ou si on n'aime pas, si ça nous parlait ou pas.
Ouais.
Mais donc toi, t'as vraiment validé quoi, le fait que non seulement il y avait une demande et qu'en plus ça te plaisait.
Ouais.
Et tu veux donner suite.
J'ai travaillé en fait pendant 2 ans et demi quand même sur le business plan de cette affaire. Hein. Je suis pas arrivée du jour au lendemain en mode, si j'ouvrais un appart à 4 200 € par mois, n'est-ce pas ? Parce que c'était le prix que je payais pour mon bail commercial.
Ouais.
J'ai quand même bossé avec des coachs d'entreprise. Pendant 2 ans et demi sur le sujet pour faire une étude de marché, m'assurer de la faisabilité un maximum du projet. Après, il y a un moment où t'es obligé d'y aller parce que tu peux pas tout sécuriser. Et je pense même, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense même que parfois t'es obligé de te lancer sans avoir tous les tenants et les aboutissants de ce que tu vas faire. Parce que sinon, tu le fais pas. Tu le fais pas parce qu'il y a forcément des galères qui vont se présenter que t'auras pas pu anticiper. Et que de toute façon tu vas trouver une solution ou pas, enfin tu vois, il y a tout un système qui se met en place quand tu lances le projet que tu peux pas forcément anticiper, et c'est tant mieux parce que tu vois, moi si c'était à refaire, je le referais, mais quasiment de la même manière en réalité, voire de la même manière. Mais tu vois, d'avoir à ma connaissance toutes les galères que j'allais avoir à surmonter, c'est clairement ça me freinerait. Donc c'est, ouais. Je trouve que c'est super d'avoir une espèce pas d'insouciance, parce qu'il faut pas y aller au doigt le toit, au doigt mouillé, et sans un minimum de fond et de propos.
Ouais.
Mais voilà, faut avoir juste une part, faut se laisser une part d'inconnu et l'accepter pour vraiment avoir le moins de peur possible à donner corps à ton projet.
Ouais. Et de flexibilité aussi, ouais. Parce que je m'imagine le cas où quelqu'un prévoit au millimètre carré une boîte, enfin, ouais. C'est juste pas possible, parce que
tu peux jamais.
Dans les faits, ça ne peut pas se passer totalement jamais. Comme tu l'avais imaginé. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais, moi je suis même très faisons-le et réfléchissons après.
Ouais.
Donc après... Dans ce que je fais, ça va pour l'instant, parce qu'en plus,
pour
généralement...
Pour l'instant, tu peux avancer comme ça.
Ouais, c'est ça. Et surtout, généralement, je le dis souvent, mais alors moi, tous les projets que j'ai lancés, c'était jamais à but lucratif à la base.
Ouais.
Et c'est venu après. C'est toujours venu de, tiens, j'ai envie de faire ça. Je cherche sur Internet comment on le fait. Je le fais et je m'améliore au fur et à mesure. Enfin, le podcast au début, et s'il y en a qui nous écoutent, qui sont là depuis les débuts, moi, j'allais, tu sais, hyper naïf, pour le coup, dans des cafés, t'entends les bruits des cuillères, t'entends les bruits des gens qui parlent.
Ouais, mais c'est chouette aussi, tu vois.
Mais oui, c'est sûr.
Et ceux qui te suivent depuis le début, ils doivent aimer ça aussi, tu vois, le côté...
Bah, le côté DIY, on va dire, quoi.
Le pendant, l'après, c'est cool aussi.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que... enfin, en fait, c'est assez paradoxal, parce que j'ai quand même un côté très perfectionniste, mais je pense que le côté better done than perfect est plus fort, et j'arrive plus à vivre avec l'idée que c'est pas parfait, mais c'est là, que juste c'est pas là, et j'ai envie de le faire, et je me trouve des excuses et tout.
Ouais.
Je suis plus juste fière d'avoir déjà accompli, et après, de toute façon, je sais qu'il y a une marge de progression dans tout ce qu'on fait, tu vois. Mais c'est vrai que pour les vrais projets entrepreneuriaux, là, comme tu dis, t'as eu raison de t'entourer avant, parce que tu peux pas improviser un lieu que tu vas ouvrir sans réfléchir un minimum aux entrées,
en
aux
fait,
sorties
disons
d'argent.
Que, alors, vrai projet entrepreneurial, c'est peut-être un peu dur, parce que moi, je pense que le tien en est vraiment un. Donc, même si... non, voilà. La difficulté que j'avais avec l'appartement, c'est que je devais sortir une trésor de 6000 euros par mois, entre le loyer, le contrat pro, etc.
Ouais.
Et c'est là où tu peux un peu moins y aller de manière, tu vois, innocente.
Ouais.
C'est qu'à un moment, bah, forcément, je n'avais pas... Le blog ne me rapporte évidemment pas 6000 euros par mois, si tu veux. Donc, à un moment, tu te dis, d'accord, c'est un projet qui a un tout petit peu d'ambition en termes d'investissement, mais par contre, je vais impliquer des gens dans cet investissement. Déjà, j'implique ne serait-ce que moi, tu vois, mon mec, mon quotidien. Ensuite, je vais impliquer un contrat pro dans l'histoire. Et je voulais pas me retrouver en galère de thunes, en mode, bon, bah, écoute, Oriane, ce mois-ci, je vais pas te payer, parce qu'en fait, j'ai pas eu de revenus, donc c'est pas grave, on verra comment on fait le mois prochain.
Ouais.
C'est juste pas jouable, en fait. Quand tu prends des engagements envers toi-même, c'est une chose, mais envers les autres, c'est encore, tu vois, un truc différent.
Ouais.
Donc, c'est ça aussi, je pense, qui te fait un tout petit peu plus mesurer ton risque. C'est à partir du moment où t'as un investissement financier et ou qui implique des gens, tu peux pas y aller complètement de manière...
Et ça t'a pas fait peur de réaliser que maintenant des gens dépendaient de toi et que t'avais la responsabilité de gens?
Si, trop clairement. Peur. Après, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet avec mes coachs. Tu vois, pendant longtemps, j'ai bossé toute seule. Et eux, ils me disaient, mais tu sais, à un moment, c'est soit tu restes seule, il n'y a pas de problème, mais c'est un certain type d'activité. Par contre, si tu as l'ambition de faire ce que tu nous dis que tu as envie de faire, tu ne pourras pas y arriver toute seule. Donc, bien sûr, ça implique une prise de risque. Mais à la fois, c'est cette prise de risque-là qui va te faire aller plus loin et qui va te permettre de donner corps, en fait, à tes projets.
Ouais.
Et donc, après, tu sais, tu commences par un stagiaire parce que tu te dis, bon, bah, le minimum, les 30% du SMIC, c'est quand même jouable, tu vois, ça c'est génial, il n'y a pas de frais autres que les 30% du SMIC.
Ouais,
donc,
et
c'est
de
plutôt...
rupture conventionnelle.
Exactement.
Ou quoi,
Tu commences par un stage de 3 mois en te disant, bon, bah, je vais voir si je peux m'en sortir sur 3 mois. Après, tu prends un stagiaire de 6 mois et puis après, tu te dis, bon, je peux pas salarier quelqu'un, parce que pour le coup, c'est... Enfin, quoique le contrat pro, c'est un salariat, puisque c'est du CDD, mais c'est ponctuel, si tu veux. Un CDI, pour le coup, je l'ai jamais fait, et c'est vrai que mon... Enfin, je sais pas, il y a certains aspects de mon contrat pro, je suis très satisfaite des deux, si elles écoutent, hein, parce que, qu'elles se disent pas, ah là là c'était... Elle a pas été contente de nous, pas du tout. Franchement, j'ai adoré bosser avec Oriane et j'adore bosser avec Charlotte. Aucun souci. Néanmoins, c'est clairement une très grosse responsabilité. Et tu vois, à la fin de chez Didi, quand j'avais toutes les galères de l'appart, que je devais sortir genre 10 000 euros de TVA, que je devais sortir 12 000 euros de loyer parce que je le payais au trimestre.
Ouais.
Tu vois, c'est des montants, mais complètement énormes. Et,
c'est
super flippant. Et Tu vois, il y a un côté où tu te dis waouh, enfin du coup là ça allait parce que j'avais provisionné, parce que je bossais beaucoup, parce que j'avais eu plein d'événements, mais tu vois, il y a toujours un petit moment où tu te dis oulala, comment je vais m'en sortir, voilà. Mmh. Donc je pense que tu vois, c'est une super expérience dans le sens où j'ai pas envie de finalement je crois que je préfère travailler soit avec tu vois un seul contrat pro CDD voire un seul CDI si je peux à terme, tu vois, ça serait super. Mais je trouve ça bien de pouvoir, quand t'es indépendant, c'est très dur de salarier quelqu'un, en fait. C'est vraiment un sujet, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
T'as des charges patronales énormes. Et puis, tu sais, tu te retrouves dans la case du patron. T'es là, genre, putain, c'est un truc de ouf, quoi.
Ouais,
c'est bizarre, quoi. Enfin,
ouais.
C'est très, très, très bizarre.
C'est vrai. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent assez naturellement. Moi,
ouais.
Je sais pas si tu dois sûrement avoir ce côté un peu où parfois... alors moi, les auditeurs et les auditrices le savent. Je suis pas du tout pour se comparer aux gens et plus pour tirer de l'inspiration de personnes autour de nous. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais donc, en termes même juste d'inspiration, parfois, je regarde autour de moi les inspirateurs et les inspiratrices. Et il y en a, tu te dis, putain, mais comment ils font?
Ouais.
Ils font des trucs de ouf, t'as l'impression que rien ne les arrête.
Ouais.
Alors que, comme tu dis, enfin, je veux dire, on n'est pas formé à tout.
Non.
Donc, tu sais, j'ai vraiment ce côté de, est-ce que c'est naturel pour eux? Ou est-ce qu'ils ont appris au fur et à mesure? Parce que je pense que tout s'apprend, mais c'est vrai que des exemples, alors moi en France, mais plutôt en Angleterre, aux États-Unis, de filles que je connais, tu vois, qui lancent 3 bises, qui ont une équipe de 10 personnes,
ouais,
qui ont mon âge, tu vois,
ouais,
et t'es là, genre, bon.
Bah,
et c'est dur parfois même de pas se remettre en question, alors que dans l'absolu,
t'es pas obligé d'avoir une équipe de 10 personnes.
Non, mais
pour
surtout, il faut se rappeler
réalisé,
de fou. Il faut se rappeler parfois que ce qu'on fait, c'est déjà très bien.
Mmh.
Et, mais je le dis aussi parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression de pas faire assez. Bon, parfois, c'est un message que je reçois qui me fait de la peine, de personnes qui me disent j'ai ton âge, j'ai l'impression que j'ai rien fait, tu vois, comparé à toi. Et c'est terrible parce qu'en fait, juste, je vous le dis, on a tous ce sentiment. Moi, j'ai ce sentiment par rapport
clair.
À d'autres gens parce que. Chacun, on a un chemin différent,
ouais,
il
n'y
a
clair.
Pas une voie, et je crois que c'est celui qui a fondé KFC, bon, même si l'abus de malbouffe est mauvais pour la santé,
ouais.
L'a fondé à 70 ans, ou une histoire comme ça.
Ah, j'avais pas, tu vois.
Et il n'y a pas de course, tu vois, dans l'absolu. Mais donc, je trouve que parfois, c'est difficile, ouais, le côté inspiration vs comparaison.
Bah déjà, je pense que ce que tu dis est très juste. Tu vois, il faut repartir de la sincérité. La sincérité, c'est aussi la sincérité vis-à-vis de soi-même et être honnête vis-à-vis de soi-même.
Mmh.
Moi, je sais que je ne serai jamais à la tête d'une multinationale parce que j'en ai pas envie, je me sens pas de manager des gens, d'avoir une pression relative effectivement au fait de les payer, etc. Et à la fois, très vite, moi, je me suis dit que j'avais pas envie de bosser seule. Parce que tu vas plus loin quand tu peux bosser avec d'autres personnes. Et comme tu le dis très justement, bah, chacun a ses... voilà, moi, je suis pas comptable, je suis pas photographe, je suis pas community manager. Donc, je touche un peu à tout parce que, un, je suis curieuse et que, deux, ça m'amuse.
Mm.
Mais tu vois, il y a un moment, je sais que si je vais bosser sur une mission où il y a des grosses attentes ou soit qu'elle est rémunérée et que donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de me dépasser. Comme je suis rémunérée, je peux payer quelqu'un et donc c'est hyper confortable. Soit si c'est pas rémunéré, mais que voilà, j'ai envie de faire un bel édito, un peu creusé, un peu fouillé et de l'habiller un peu, tu vois, ça m'arrive de temps en temps de payer des illustrations pour illustrer, enfin pour voilà, pour accompagner mes articles.
Ouais.
C'est pas rémunéré, à la fois je me dis j'investis moi dessus parce que je mise dessus et je me dis que ça sera plus agréable à lire, etc.
Mm.
Donc je pense que la sincérité, c'est voilà, moi je ça vient aussi peut-être avec l'âge, hein, tu vois, avec l'expérience, mais c'est se dire, ben, où est-ce que... Tu sais, cette question, elle est con, est-ce que tu dois dans 10 ans? Moi, j'ai toujours eu horreur de cette question. Je trouve qu'elle n'a pas de fond, elle n'a pas de propos. Mais néanmoins, si elle a une utilité, c'est juste d'essayer de te dessiner, toi, de te projeter un petit peu professionnellement parlant et de savoir où est-ce que tu mets un peu le curseur. Est-ce que tu te vois bosser seule? Tu vois, il y en a, c'est pas possible. Il y a une fille avec qui j'ai essayé de bosser, une fille adorable... que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime beaucoup et avec qui j'ai beaucoup aimé bosser. Et à un moment, on a eu des velléités de s'associer toutes les deux, elle pour la partie donc commerciale biz dev et moi juste pour rester sur mon périmètre.
Ouais.
Et en réalité, elle sortait d'un très grand groupe avec genre 600 salariés et elle avait envie d'autre chose. Mais tu vois, cette expérience avec moi lui a montré que peut-être elle serait plus à l'aise dans une structure intermédiaire et
ouais.
pas dans une structure où on n'aurait été que 2, 3, 4 max.
Ouais.
Et que, pourquoi? Parce qu'elle, toute sa vie, elle a eu des fonctions support, elle avait une question RH, elle appelait le truc RH, juridique, etc. Bah toi, tu le sais bien, quand t'as une question juridique, bah, tu fouilles les internets, tu te débrouilles, t'essayes de trouver un contact, tu vois, tu fais jouer ton réseau, enfin voilà, ouais, t'es un peu en mode huggy les bons tuyaux, je trouve, je me débrouille, etc. Et ça, en fait, je dis pas que c'est une qualité ou un défaut, je dis juste que c'est pas donné à tout le monde n'a pas envie de le faire ou tout le monde ne sait pas le faire. Et du coup, partant de là, tu vois, cette honnêteté, je sais pas, parfois on se fantasme dans tel ou tel type de profession, avec tel ou tel, tel ou tel type de choses, et en réalité... Bah ouais, c'est assumer le fait que... moi, j'assume le fait que je serai jamais... enfin, faut jamais dire jamais, mais en tout cas, ça ne m'attire pas.
Ouais.
Et je me projette pas dans cette voie-là d'être directrice d'une boîte de 200, 300 personnes, même ouais. 50. Je mets même 10 en réalité, tu vois. Voilà.
Est-ce que, du coup, ça me fait penser à ça, parce que c'est quelque chose, perso, que je fais pas du tout, que je sais qu'on conseille dans l'absolu et qui est, par exemple, très courant aux États-Unis. Est-ce que tu te fais des espèces d'objectifs tu vois, de chiffres ou de... Enfin, que ce soit financier, que ce soit de sur les réseaux. C'est un truc, moi, je ne peux pas. Si j'ai déjà essayé, je me sens mal. Je trouve que c'est réduire, tu vois, un peu... enfin, je pense que c'est aussi peut-être mon côté naïf encore. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, Louise, t'aimes pas, mais à un moment, il faudrait que tu prennes quelqu'un pour le faire parce qu'il faut le faire et tout. Et moi, j'ai vachement mal avec ça, tu vois.
Bah, moi aussi. En fait, je le fais peu, voire pas. Ce qui rend dingue mon coach, ce qui rend dingue mon expert comptable, ce qui rend dingue ma sœur qui est un amour et qui m'aide à piloter souvent le développement, tu vois, de Didi. En fait, c'est ce que tu viens de dire, les gens qui te disent que tu veux aller plus loin. Enfin, quand tu dis aux gens que tu veux aller plus loin ou si tu as des velléités d'aller plus loin, on te dit forcément à un moment qu'il faut s'astreindre à un truc de grand, tu vois, un truc cadré, etc. Bon, moi je l'ai fait un peu, notamment avec le lieu, parce qu'encore une fois, quand t'as des grosses dépenses, à un moment, c'est super compliqué. Mmh. Après, je pense qu'on est, c'est important de laisser libre cours à son intuition. Et t'as des gens qui sont plus ou moins intuitifs. Toi, je pense que t'es intuitive. Moi, je suis intuitive aussi. Et du coup, ça veut pas dire qu'il faut y aller en mode YOLO, j'y vais, je saute, voilà. Ça veut juste dire que c'est pas parce que t'as pas un truc bordé à l'ancienne. Que tu peux, tu vois, ne pas être dans les clous. Donc, après, ça dépend de tes projets. Encore une fois, tous les projets ne se prêtent pas à ça.
Ouais.
L'appartement, encore une fois, si je ne m'étais pas astreinte à un certain nombre d'objectifs, à un certain nombre de choses, tu vois, à poser, calculer, etc., ça n'aurait pas pu fonctionner en réalité. Parce qu'avec la trésor que je devais sortir, c'était beaucoup trop important pour ne pas avoir un minimum de backup. En revanche, clairement, j'ai pris une personne pour m'épauler là-dessus.
Ouais.
Parce que je ne savais pas le faire, que j'avais pas envie de le faire. Et ça aussi, c'est de l'honnêteté, de la sincérité par rapport à toi, tu vois. Te dire, ben, ok, là, je vais être obligée de faire ça, mais j'aime vraiment pas faire ça. Donc, je peux me forcer dans une certaine mesure, mais on a tous des journées dingues. On sait très bien que... Tu vois, moi, par exemple, scanner mes notes de frais, mais laisse tomber. Je suis en train de faire une pile sur le bureau, ça fait 3 mois, c'est l'enfer. Et quand je vais m'y mettre...
Non, mais voilà. Et encore, j'ai essayé de ranger.
Non, mais voilà, c'est l'enfer. Non, mais voilà. Donc, je sais juste que je vais être en galère quand il va falloir que j'envoie tout ça au comptable et que je vais attendre le dernier moment comme d'habitude et que je vais me rendre dingue et que je vais me faire une nuit blanche. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, tu peux le faire dans une certaine mesure. En revanche, tu peux aussi te dire que sur certains projets, c'est bien d'anticiper. Et du coup, ça veut pas forcément dire te faire un tableau. Ma sœur, elle m'a mis en place des matrices de ouf hyper simples, hein, tu vois. Elle m'a dit, ok, je sais que t'as besoin d'un truc simple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remplir et t'auras juste à remplir cette petite case qui correspond genre à tes dépenses mensuelles, à ce que t'as dépensé. Et tu vois, elle me dit, les frais fixes, je te les ai mis, je t'ai mis toutes les dépenses et tout. T'as juste à mettre le delta que moi, je connais pas. Ben, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, non, mais je suis grave, parce que j'y arrive pas.
Ça me rappelle que je dois aller à la poste depuis 3 semaines.
Ah bah, merde,
je te jure.
Moi aussi.
Mais c'est ce genre de truc, moi. C'est ce genre de truc, parfois je me dis, mais merde, genre, c'est des trucs que je trouve trop pas essentiels, tu vois.
Ouais.
Et après, les gens doivent rire, parce que je vais plus faire une story qu'aller à la poste, tu vois.
Non,
mais c'est juste, tu vois, dans mes priorités immédiates, la poste, c'est pas là, tu vois.
Après, ce qui peut quand même être bien, c'est. Alors, bon. La poste, c'est relou, tout le monde le sait.
En plus, les horaires de merde, quoi. Merci
horaires
quand
de
même.
Merde. Bah, c'est pour ça que j'ai pris une stagiaire, comme ça, elle va à la poste. L'enfer.
On balance les backstage.
C'est ça. Non, mais tu sais qu'après, t'as des contraintes qui sont utiles, voire indispensables. Donc, typiquement, bah, de toute façon, la poste, quand t'auras plus le choix, bah, tu seras obligé d'y aller, t'iras. En fait, tu te poseras pas la question. Moi, c'est pareil, j'attends le dernier moment, puis quand il faut que j'y aille, bah, j'y vais. Donc, voilà, tu sais que... se fixer des objectifs, moi je le fais, alors pas de manière forcément, alors dans 6 mois je vais être là et puis là j'aurai tel CA machin, ça je fais pas. Par contre je me dis, bah voilà, tu vois la V2 de chez Didi, comment je l'envisage, je pose des délais, des deadlines, même si c'est des deadlines à titre indicatif, c'est hyper précieux d'avancer, tu vois, de pas naviguer complètement à vue, tu vois.
Justement, d'accord, ouais, d'avoir une feuille de route en
ouais,
fait.
Ouais, exactement.
Mais moi ça me rassure, moi je fais plus ce genre de truc, quitte à ne plus jamais la regarder,
voilà.
Mais juste pour savoir
poser au moins une fois les choses.
Ça a un sens.
Voilà, exactement.
Et qu'il y a une timeline et que ça peut se découper en étapes. Ouais. Ça rassure beaucoup.
Ça rassure.
Ouais.
Et si t'es sur un projet où t'as vraiment besoin d'avoir des choses un peu plus costauds, on va dire, en termes d'objectifs, bah tu t'entoures. Tu vois, moi, les coachs d'entreprise, c'est 500 euros par mois. C'est une somme. C'est, à l'année, c'est beaucoup. Mais c'est une tranquillité d'esprit. C'est une matinée par mois. C'est bien moindre en termes d'investissement de temps que ce que ça me coûterait moi. Je serais en plus moins efficace. Je ne penserais pas à tout. Ils m'ouvrent des horizons. Ils m'ouvrent leur carnet d'adresses. Enfin, voilà. Et je trouve que... à un moment, c'est miser sur soi, c'est bien, c'est important et c'est même fondamental, mais c'est bien aussi de savoir miser sur certaines autres personnes.
Ouais. Mais alors, ils font quoi les coachs d'entreprise? Parce que t'es la première à m'en parler sur le podcast.
Écoute, bah là, tu vois, d'ailleurs, j'ai mis un peu en pause parce que j'avais besoin de reprendre un peu de latitude après le projet chez Didi, 18 mois, etc. Mais globalement, bah, tu vois, ils m'ont juste aidé à structurer un peu mieux mon quotidien. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance, bah, je pense que toi, c'est un peu la même chose. En plus, t'es étudiante, donc tu rajoutes une couche. Mais comme bah, je suis touche à tout. Donc en fait, dans mon quotidien, de base, je fais 1000, enfin j'exagère, mais je fais, je sais pas, 15 métiers, tu vois. Je suis, encore une fois, je suis journaliste, inspirateur, t'as vu, j'ai adopté ton mot.
C'est top.
photographe avec 1 milliard de guillemets, community manager avec 1 milliard de guillemets, comptable, toujours les guillemets. Mais tu vois, t'es amené en fait, quand t'es freelance, à te frotter à 1 milliard d'activités. Et en fait, le truc, c'est que les coachs, moi, tu vois, il y a un moment, tu te noies un peu dans tous les sens. Et t'es là, genre, et puis tu réponds au téléphone, et puis tu checkes tes mails, et puis voilà. Donc déjà, ils m'ont aidé à, c'est débile, hein, mais juste structurer ton quotidien. Genre, dégager des plages horaires pour, voilà, là, je me fais une heure.
Moi, je fais des to-do tous les jours.
Ouais, bah voilà. Ah, mais c'est top. Ouais, ouais, mais moi aussi, je suis très to-do. Et en fait, tu sais, te dire, moi, par exemple, j'ai tendance à... Je sais pas, là, tout à l'heure, je faisais des recherches pour un sujet sur les crèmes solaires. Donc, bah, forcément, je pars dans tous les sens parce que c'est l'étape, tu vois, curation.
Ah ouais, ah ouais,
donc,
la curation, moi, c'est toujours là où je pars dans tous les sens.
Non, mais voilà. Et puis, tu sais, à un moment, genre, t'as ton téléphone qui sonne, donc tu réponds.
Ouais.
Et puis, du coup, tu perds le fil et puis tu te remets dedans. Et puis, en fait, hop, tu vas sur ton mail. Ah là là, bah tiens, j'ai oublié de répondre à ça. Tac.
Totalement.
Et puis, merde, des stories, j'ai pas fait. Je vais faire un petit tour vite fait. Et tu reviens dans ta curation, t'as perdu le fil, tu mets 18 plombes à te remettre dedans.
Ouais.
En fait, ça, c'est pas le bon plan.
C'est
donc
pas
les coachs.
Productif.
Ouais, en fait, les coachs, moi, ils m'ont aidé avec tout le succès que tu vois, n'est-ce pas? Non, mais voilà, ils m'ont aidé à organiser un peu mieux mes journées pour optimiser mon temps de travail parce qu'il y a un moment, j'étais clairement proche du burn-out et je comprenais pas. Je me disais, mais attends, j'ai quitté un métier qui m'épanouissait moins pour en faire un que j'adore. Je suis freelance, c'est génial, tu vois. J'organise mon temps comme je veux sur le papier. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller chez le coiffeur en plein milieu de semaine et bosser le samedi à la place, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, il y a quand même une espèce de fantasme de la liberté de ton emploi du temps qui est quand même génial, quoi. Et en réalité, je subissais. J'étais dans un espèce de mode essorage, 3200 tours, pas le temps de respirer, tu te noies dans tous les trucs. Et finalement, tu t'en viens à plus profiter de rien comme tu pourrais. En fait, et tu t'en viens à tu vois, ça devient limite pénible et je comprenais pas, je me disais mais attends, c'est ouf, je fais ce que je veux, je fais le métier de mes rêves et j'en viens à me retrouver à chialer le soir parce que j'y arrive pas, tu vois. Et donc ils m'ont aidé à prendre de la distance par rapport à ça, à mieux m'organiser, à solliciter les bonnes personnes quand j'en avais besoin, à trouver des solutions alternatives en fait, quand t'es seule face à toi-même. Et qu'en plus, t'es pris dans un quotidien hyper chargé, comme c'est le cas de beaucoup de monde, tu finis par plus trop avoir de recul sur les choses et tu vois pas forcément les solutions, même si elles sont sous ton nez. Et d'avoir un tiers qui est neutre, qui va te dire « Mais regarde, pourquoi t'as pas pensé à prendre une stagiaire ?»« Mais parce que j'ai pas le temps, mais parce que machin. » Oui, mais passe une semaine sur le sujet et ça va te faire gagner du temps après. Et voilà, et c'est tout con. Et en fait, quand tu l'entends, tu dis bah, je suis pas teubée, j'y aurais pensé toute seule, tu vois. Sauf que non, en fait, parce qu'encore une fois, t'es dans ta petite roue de hamster et t'as pas forcément cette latitude. Donc, ils m'ont aidé à ça, ils m'ont clairement aidé à chercher les financements pour l'appartement. Moi, j'avais jamais fait de levée de fonds, je savais pas comment ça se passait, j'avais besoin de 60 000 euros.
T'as fait une levée de fonds, t'as fait une campagne de crowdfunding?
J'ai fait une campagne de crowdfunding qui m'a permis d'avoir 15 000 euros pour faire tous les travaux. Donc, quasiment l'intégralité des travaux sont passés grâce à la campagne de crowdfunding. Donc, ça, c'était génial. génial. Et pour les autres fonds,
parce ouais, qu'on a 45 000 euros quand même.
Voilà, 45 000. Voilà, j'ai fait principalement de la love money, parce que je suis allée avec la, tu sais, à la banque très naïve, en mode « Bonjour, j'ai un projet je suis freelance,
voilà. Chèque,
c'est nul, combien? Tu me donnes 2 000 ben, c'est super. Il me manque 43 000. Ouais. Voilà, donc, mais tu vois, ne serait-ce que d'avoir un vrai business plan, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Puis alors, toi, comme moi, je pense qu'on a bien compris, on n'aime pas les chiffres, donc le business plan, c'est quand même un bon exercice bien vénère quand t'aimes pas les chiffres.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà, ils m'ont aidé à trouver ça, ils m'ont aidé à apprendre à solliciter quelqu'un. Moi, je n'aimais pas du tout ça au début. En fait, j'aime bien donner des conseils, aider, etc. Mais c'est marrant, je n'osais pas forcément frapper à la porte des gens, tu vois. J'avais toujours peur de les emmerder avec mes questions à la con. Je me disais, mais attends, laisse tomber, le gars, c'est un cador, il n'a pas que ça à foutre de répondre à une pauvre petite blogueuse. Je vais l'emmerder avec mes questions et tout. Et en fait, ils te disent, tu sais, les gens, en fait, ils aiment que tu les sollicites. Donc,
ils sont importants.
Ben ouais. Et dans 9 cas sur 10, ils vont répondre par la positive. Et puis s'ils répondent non, c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, tu vas t'en remettre.
T'avances.
Voilà. Et c'est vrai. Et du coup, ils m'ont vachement aidé à oser frapper aux portes quand j'en avais besoin, etc. Donc voilà, c'est des gens qui t'aident à prendre un peu de distance, un peu de recul, qui t'aident à mieux t'organiser et à avancer. Et surtout, tu vois, sur le blog, pour tellement de gens, c'est pas une vraie activité professionnelle. Qui a aussi ce syndrome de l'imposteur où tu te dis ouais non mais j'ai de l'audience mais c'est un peu un malentendu, c'est je sais pas trop comment, je l'explique pas, ouais, et puis de toute façon c'est pas un vrai métier, c'est bon, je parle chiffon, on va se détendre 2 secondes. Donc eux ils t'aident aussi à te dire non mais meuf, ça fait 14 ans que tu fais ça, bien sûr que c'est un métier, et on va t'aider à aller encore plus loin, voilà. Donc c'est bien aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un, c'est con hein, gars, cette petite confiance qui peut te faire défaut de temps en temps. C'est top d'avoir quelqu'un derrière, même si tu les payes pour ça.
Ben, ouais, c'est ça, tu les payes pour qu'ils te disent que ce que tu fais, c'est
you
bien.
You go, girl. Ouais, ouais, c'est vrai.
Ouais, non, mais ils t'aident. Bah, t'as donné, ouais, t'as donné pas mal d'exemples de comment ils t'ont aidé. Est-ce qu'il y a un truc en particulier, un conseil en particulier, peut-être, qui t'a grave aidé, que peut-être t'appliquais pas avant, que tu peux transmettre à nos auditeurs et nos auditrices?
Bah, déjà, c'est plus qu'un conseil. C'est pas eux qui me l'ont donné, c'est une fille... à qui je m'entends plus du tout aujourd'hui, mais qui m'a donné une super phrase un
jour. C'est déjà pas mal.
Ouais, ouais, ouais. Elle m'a fait un beau cadeau, on va dire. Et en gros, cette fille-là, c'est quand j'arrivais pas à partir de chez Cosmo, mais je pense que ça vaut pour tous les projets importants dans ta vie, d'ailleurs, que ce soit de l'ordre pro ou perso, hein, d'ailleurs. Tu vois, j'étais aux prises avec mes atermoiements de « mais comment je vais gagner ma vie ?»« Mais c'est pas avec le blog que je vais y arriver. » Et puis, de toute façon, machin, etc. Bon, je me pose pas mal de questions. Hein. Je suis une fille, voilà. Voilà, voilà. Mais un jour, elle m'a dit le truc le plus con du monde. Elle m'a dit « mais je comprends pas, Delphine, t'as peur de mourir ?» Et tu sais, ça a été un déclic, alors que c'est la phrase la plus bateau du monde. C'est évident, bien sûr que j'ai pas peur de mourir. Et en vrai... Je pense que ça, c'est un très bon conseil, c'est arriver à prendre du recul sur les choses et te dire qu'en fait, dans la vie, rien n'est jamais acquis. Tu vois, par exemple, moi, je suis mariée, mais je le vis comme un pari. C'est-à-dire que j'ai fait le pari de m'engager plus loin avec une personne. Pour moi, c'est un vrai pari parce que la vie, c'est long et tu sais jamais de quoi elle est faite. Maintenant, face à ce choix que j'avais il y a déjà 14 ans, tu vois, ça m'a angoissée de fou, quoi. Pendant 2 ans, je me suis dit « mais j'en sais rien, mais c'est horrible et tout ». Et là, pareil, là, une psy que je voyais à l'époque en particulier sur ce sujet m'a dit « mais quel est le problème ? En fait, on ne vous demande pas de répondre à la question « est-ce que vous l'aimerez toute votre vie ?» Ce n'est pas cette question à laquelle vous devez répondre. C'est « est-ce que vous l'aimez assez aujourd'hui pour relever ce pari-là » Et tu vois, en fait, c'est ça, je pense qu'on a tous, enfin tous, en tout cas moi, j'ai tendance à dramatiser les choses et à me dire oh, « mais si je choisis ça, tu vois, tout choix implique un renoncement. »
L'histoire de ma vie.
Non, mais voilà, et tu vois, et tu te dis «
le
mais
poids
ce choix,
du
voilà,
choix.
Le poids du choix. » Et en vrai, je pense qu'il faut qu'on soit capable de prendre la distance parce que, en réalité, quels sont les choix qui t'enferment à 100%?
En vrai, il n'y a pas de fatalité.
Voilà.
Ouais, franchement...
T'as toujours, justement, le choix. Et du coup, tu te dis, ben, voilà, tu vois, moi, si on reprend la métaphore du mariage, moi, j'espère que je vais gagner ce pari parce que, déjà, je suis encore très amoureuse aujourd'hui et voilà, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que j'ai envie d'aller sur une autre route.
Ouais.
Mais tu vois, je me dis, ben, si un jour, lui ou moi, on change d'avis... Et bah, c'est pas grave, c'est pas un choix qui nous enfermera. Voilà, donc après sur le business, c'est pareil. Tu vois, chez Didi, c'était hyper flippant parce qu'il me fallait 60 000, que j'avais 0 euro de côté, que je gagnais clairement pas 6 000 euros par mois, et que du coup, il y avait un certain nombre de risques en rouge fluo qui me faisaient bien flipper et qui aurait clairement pu m'arrêter. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, ok, on va poser les choses, on va dérouler les choses. De quoi j'ai besoin? Comment je peux y arriver? Les coachs m'ont clairement aidé à ça.
Ouais.
Et finalement, tu prends du recul et tu te dis, ouais, bah, tu sais quoi? Si ça marche pas, j'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent, j'aurais perdu un peu d'ego certainement au passage, mais il n'y aura pas mort d'homme en vrai, tu vois. Et je me serais éclatée. Et tu vois, le pari a été relevé. J'ai fermé ce lieu, pas parce que ça n'a pas marché, mais parce que j'ai eu des problèmes avec le proprio et je compte bien rouvrir un lieu. Donc, en réalité, faut écouter ses doutes, faut écouter ses peurs, c'est important, mais faut surtout les apprivoiser et savoir les mettre de côté et prendre un peu de recul sur les choses, quoi.
Trop cool.
Voilà.
Bah, c'est trop cool d'ajouter que ça fait déjà une heure. Hein. Ça passe trop
c'est
vite.
C'est pas vrai.
Je te jure.
Tu déconnes.
Mais du coup, je vais te poser la dernière question voilà. du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Eh ben, c'est une question très compliquée et j'ai essayé de pas trop écouter tes podcasts justement quand tu m'as proposé de le faire pour pas trop tu vois être
non mais c'est vrai être influencé par
ce que exactement. Disent les autres. Ouais. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est faire la paix avec soi-même. Tu vois, c'est être un peu plus tendre avec soi-même. Moi, je suis quelqu'un de très très dur avec moi, je suis pétrie de complexes. Et tu vois, tu te dis en fait ton pire ennemi c'est toi. Et une fois que tu as réalisé ça, effectivement tu peux prendre le pouvoir sur ta vie parce que tu te dis ben ouais mes bras je les déteste, ils sont gros, ils sont mous, mais finalement c'est mes bras. Et comme dit une amie, Nadia si tu m'entends, elle dit c'est aussi tes bras qui te permettent de serrer contre toi quelqu'un à qui t'as envie de faire un câlin. Et c'est vrai, tu vois. Et finalement on est toujours très très, enfin en tout cas moi je suis très dure avec moi vraiment, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses surtout dans ce cas-là. C'est très féminin, tu vois, de toujours voir ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas.
Parce que la société nous montre comment essayer de changer ça plus qu'elle le montre aux hommes.
Exactement. Et du coup voilà, c'est un peu ça, être un peu plus tendre avec soi, faire preuve d'un peu plus d'auto-bienveillance. Et ça commence peut-être par se forcer par être un peu plus bienveillant avec les autres, tu vois.
Ouais.
Un peu moins bitché, un peu moins critiqué.
Ouais, je pense beaucoup. Je dis souvent sur mon compte. On arrête de se juger le jour où on arrête de juger les autres.
Ouais.
Et vice-versa.
Mais tu sais, on le sait, de toute façon, ça, c'est tous les trucs miroirs, tous les gens qui viennent t'agresser, t'envoyer des trucs dans la gueule, ça correspond à quelque chose en eux, en fait.
Ouais, carrément.
Donc, t'as raison, c'est clair, arrêter de critiquer les autres. Pourquoi les gens critiquent les autres? C'est parce que ça leur renvoie un mal-être qu'ils ont, eux, ou
et
quelque chose qu'ils
besoin,
n'ont pas.
Ouais.
Voilà,
il y a ce besoin, exactement, pour essayer de se situer en mieux, généralement, par rapport aux autres.
C'est
très malsain.
C'est hyper malsain, mais bon, voilà.
Trop cool. Bah franchement, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir d'échanger avec toi.
Très
et,
cool.
Et je trouve que tu as une sagesse assez admirable.
Appelle-moi Bouddha. En fait, je vais renommer mon blog, tu sais.
C'est ça, non, le nouveau lieu.
Je suis plein de failles, mais on n'a pas eu l'occasion de les découvrir.
Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur ton univers, sur ce que tu fais?
Elles peuvent aller sur Didi Paris. C'est le blaze, le pseudo que j'utilise partout sur Internet. Donc Instagram, le blog, Facebook, c'est toujours Didi Paris.
Trop cool. Je mettrai ça dans les notes du podcast pour que vous puissiez le trouver facilement. Et j'espère à bientôt, Delphine.
Super, merci Louise, à bientôt.
Bye. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Delphine. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram et en nous taguant @didiparis et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Si jamais vous n'avez pas entendu mon annonce au début de l'épisode, vous pouvez aussi m'envoyer par DM sur le compte Instagram du podcast @inpowerpodcast quel sujet vous aimeriez que j'aborde pour la mini-série d'épisodes que je vous prépare pour le mois d'août, et vous abonner au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les épisodes à venir. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.